Vous aviez quel âge, Julia, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée?
1989, ça commençait déjà à bouger, et puis j'avais 9 ans. Et puis quand ça s'est vraiment terminé, c'était dans les années 90, j'avais 10 ans.
Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement autour de vous?
Je me rappelle bien que pendant des mois et des mois, à la place de l'argent, on avait des petits billets en papier. C'était une espèce de monopoly parce que c'était vraiment les feuilles de papier ordinaires A4 qu'on a dû découper pour aller au magasin. C'était, oui, j'ai des souvenirs que c'était assez rigolo sur le coup, mais c'est quand même pas évident pour les gens qui vivaient là-bas étant adultes. Déjà, l'argent qu'on avait avant, elle est disparue du jour au lendemain. Ils se sont dit qu'on avait des énormes inflations. Vous avez eu l'argent, par exemple, hier chez vous pour acheter une voiture, mais le lendemain, vous avez pu acheter qu'un bout de pain. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont reçu les coûts sur leur existence suite à ça.
Parce que votre papa avait réussi à faire quelques économies, en faisant un petit peu l'import-export de fruits et légumes.
Oui, et ça n'existait plus, tout ce qu'il a pu travailler pendant, ça fait plus de 10 ans, je pense, autour de 10 ans qu'il a travaillé, il n'avait plus rien.
Et vous m'avez raconté aussi qu'il n'avait pas pu tellement dépenser son argent non plus, lorsqu'il en avait.
Non, parce que c'était assez compliqué, on ne pouvait pas acheter un appartement, ça ne se faisait pas, on n'avait pas achat-vente de propriétés. Il a pu peut-être acheter une voiture, c'est ce qu'il a fait, mais il ne pouvait pas forcément acheter deux parce que c'était aussi interdit. Et puis, ses économies, les gens, ils les gardaient comme ça chez eux ou ils posaient à la banque. Mais à la banque, c'est aussi ensuite l'inflation, ça ne représentait plus rien. Du coup, cet argent, il est disparu dans la nature.
Voilà, il commence à pleuvoir. C'est pas de chance, hein?
Non, vraiment pas de chance.
On va se sauver. Alexis Garin, là vous êtes un habitant des Verrières, horloger. Qu'est-ce que vous faites ici à ce pique-nique russe?
C'est par sympathie vis-à-vis de cette communauté russe, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de contacts avec la Russie et l'Ukraine. J'ai aussi voyagé au Kazakhstan, au Ouzbékistan. Et ces dames, j'ai eu la chance de pouvoir leur aider à une ou deux à s'intégrer et à trouver du travail.
Notamment Yulia, vous avez un peu donné un petit coup de pouce pour qu'elle puisse entrer dans le monde de l'horlogerie.
De l'horlogerie, parce qu'elle était très très douée. Elle avait fait un cours rapide à Fleurier. Je l'ai vue comme ça deux, trois fois. J'étais époustouflé, même jaloux de ses capacités. Et pourvu de bonne volonté et d'une gentillesse. Et c'est que ces gens-là veulent absolument arriver à quelque chose et s'intégrer. On peut faire de l'avance dans notre pays avec des gens comme ça. On doit leur faciliter l'intégration.
Et vous qui connaissez l'Ukraine, quel regard vous avez sur ce pays, sur le pays d'origine de Yulia?
Ah, ça a changé depuis quelques années. Il y avait deux tendances en Ukraine. C'était la tendance européenne et la tendance russe. Ils ont finalement opté pour la Russie avec Poutine. Et chacun connaît les ambitions de Vladimir Poutine, c'est tout simplement qu'il rêve toujours de refaire une grande Russie, disons plus ou moins à sa merci. Il aime bien pouvoir diriger tout le monde.
Et qu'est-ce que vous voyez d'ukrainien chez Yulia?
Ah ben, elle garde son bel accent, bien sûr. Et puis, Yulia fait partie de ces gens qui sont très gentils, trop gentils presque, vous voyez, mais grande capacité de s'adapter.